France Culture.
Et le journal est présenté par Olivier Denray. Bonjour Olivier.
Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Le parquet européen annonce aujourd'hui l'ouverture d'une enquête contre le Rassemblement National et ses alliés d'extrême droite. Ces partis sont soupçonnés d'irrégularités financières, une nouvelle affaire révélée par la presse au début du mois de juillet. Les familles dont un proche est mort au travail attendent un vrai soutien de l'État. Jusqu'à présent, elles doivent se débrouiller toutes seules dans un dédale de souffrance. Le gouvernement doit annoncer un plan d'action dans les tout prochains jours. C'est une information France Culture. 211 milliards d'euros en 2023, c'est a priori la somme dépensée par l'État pour soutenir les entreprises françaises. Les sénateurs réclament une simplification des procédures pour une meilleure lisibilité. Ils veulent aussi que les aides donnent lieu à des remboursements dans certains cas. Dans ce journal, nous irons également en Argentine, où le président Javier Milei continue, lui, de tailler à la tronçonneuse dans les dépenses de l'État. Cette fois-ci, il s'agit de couper les vivres à tous les services qui s'occupent des routes et de la sécurité routière. Enfin, la rentrée du groupe France Télévisions, l'occasion pour Delphine Ernotte de préciser sa vision de la fusion avec Radio France et l'INA. Le projet de holding passe au Sénat à la fin de cette semaine, avant un retour devant les députés. Ce sera au mois de septembre prochain. Condamnée en mars dernier, entre autres, à 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen saisit la Cour européenne des droits de l'homme, une institution qu'elle a pourtant souvent critiquée par le passé. Elle dénonce ce qu'elle considère comme une violation de plusieurs droits garantis et demande la levée en urgence de cette mesure qui, dit-elle, porte atteinte à la liberté de choix des électeurs. Marine Le Pen, dont le parti politique fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet européen, on l'a appris il y a quelques heures. Le Rassemblement national et ses alliés d'extrême droite sont soupçonnés de nouvelles irrégularités financières. On parle ici de plus de 4 300 000 euros, chiffre tiré d'un rapport interne du Parlement européen révélé récemment par plusieurs médias. Fabien Cazot nous appelle de Bruxelles.
L'enquête diligentée au départ par les services financiers du Parlement européen est une enquête de routine. Dès qu'un groupe politique se dissout, comme ce fut le cas l'an dernier pour Identité et démocratie, qui a fait place à celui des Patriotes pour l'Europe, le Parlement s'intéresse à la clôture de ses comptes. Or, dans ce cas précis, le rapport encore provisoire pointe des versements faits à des prestataires, des partenaires, voire des associations qui n'ont rien à voir avec les activités parlementaires menées au sein de l'institution. Des soupçons suffisamment étayés pour convaincre le parquet européen d'ouvrir à son tour une enquête, celle-là moins routinière. De quoi faire sortir de son silence le président de l'actuel groupe des Patriotes pour l'Europe, Jordan Bardella. Il s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire cet après-midi.
J'y vois le signe d'une nouvelle opération de harcèlement de la part de l'administration du Parlement européen qui, de manière extrêmement inquiétante, a pris la responsabilité de diffuser des correspondances internes dans le cadre même d'une procédure contradictoire. Je pense que personne n'est dupe.
Jordan Bardella siégeait au sein du groupe Identité et démocratie sans pour autant le présider, tient-il à rappeler, se disant aujourd'hui extrêmement prudent comme président des Patriotes pour l'Europe sur l'usage qui est fait de l'argent public.
Pour la première fois, une Française de retour de Syrie devrait être jugée aux assises pour génocide. C'est une décision de la Cour d'appel de Paris. Cette femme est accusée d'avoir réduit en esclavage en 2015 une adolescente yézidie. Elle devrait aussi être poursuivie pour terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. On vous en parle depuis ce matin dans les journaux de France Culture. Le gouvernement prépare un plan pour tenter de réduire le nombre de morts au travail. Il devrait être présenté avant la fin du mois. Il prévoit notamment de renforcer la responsabilisation des employeurs et des donneurs d'ordre. Il s'agit aussi de beaucoup mieux protéger les jeunes, les intérimaires ou encore les salariés du BTP via des formations obligatoires. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Olivier.
Un des volets de ce plan concerne le parcours des victimes et de leurs familles. Jusqu'à présent, rien n'est prévu les concernant.
Oui, quand leur fils de 21 ans, Jérémy, est mort au quatrième jour de son stage dans le BTP, Frédéric et son épouse ont d'abord mis du temps à sortir d'une extraordinaire sidération.
Vous perdez vos moyens et en fait, très vite, vous êtes rattrapé par des contraintes administratives de toute nature. Les hôpitaux, la sécurité sociale, la CPAM qui fait son enquête, la police qui fait aussi son enquête, toutes les procédures juridiques qui se mettent en place. On se sent perdu et tellement endeuillé, voyez, c'est tellement pas naturel de perdre un fils à cet âge-là. Je crois qu'on est broyé et que c'est vrai qu'on a besoin à un moment donné d'être soutenu et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui aide la famille, ça c'est sûr.
Frédéric n'écarte aucune proposition pour que les familles soient soutenues. Lui et sa femme suggèrent notamment de faire payer les entreprises condamnées.
Toutes les entreprises qui sont condamnées pour des accidents du travail, c'est qu'à un moment donné, elles abondent à un fonds qui permet en fait de financer une aide aux familles, un premier secours, la mise en place d'un support juridique ou même d'un support financier, en fait, que les familles savent où s'adresser et savent aussi qu'elles vont être supportées d'une certaine façon.
Il salue donc cet aspect du plan de la ministre, mais souhaite surtout qu'on évite ces drames.
La prévention, elle doit se passer par un schéma de sanctions qui fait peur aux entreprises, en fait, qui est pénalisant. C'est pas le cas aujourd'hui.
Même lorsqu'ils sont reconnus coupables, les chefs d'entreprise ne sont quasiment jamais condamnés à la prison ferme.
Merci beaucoup, Afia Kenich. Les conditions météo ne jouent pas en ce moment en faveur des pompiers qui luttent contre l'incendie près de Narbonne. Le vent, la chaleur et le manque d'humidité font craindre des heures encore difficiles sur le terrain. Le feu a déjà détruit 2000 hectares de végétation. Les autorités demandent aux habitants de plusieurs quartiers de la ville de se confiner. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette catastrophe. À Marseille, l'incendie qui s'est déclenché ce matin est lui aux portes de la ville. Le feu a pris au nord dans une commune limitrophe. 700 hectares sont partis en fumée. Là aussi, les services de l'État demandent à la population de se confiner autant que possible. Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées par précaution. Le trafic des trains est quant à lui interrompu. La SNCF demande à ses clients de reporter tout simplement leur voyage. Après un mois de juin qui a battu des records de chaleur, doit-on s'inquiéter pour les ressources en eau? Le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, spécialiste de ce genre de mesures, ne tire pas la sonnette d'alarme aujourd'hui. Pour autant, la situation est loin d'être homogène sur l'ensemble du territoire français, avec des déficits conséquents, Véronique Rebérotte, mesurés dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi dans les plaines du Roussillon.
Ces secteurs connaissent un problème de recharge de leur nappe. La période de vidange, qui s'annonce avec l'été, non de recharge, ça c'est l'hiver. Cette période est jugée inquiétante par le BRGM. Dans le Roussillon et donc les Pyrénées-Orientales, les réservoirs vont se vider rapidement sous l'effet de la hausse estivale des températures et des canicules annoncées. Les nappes phréatiques connaissent en même temps une forte sollicitation liée à l'afflux de touristes. Comme ailleurs, les orages, s'il y en a, n'y changent rien. Les eaux d'orage ruissellent. Plus qu'elle ne s'infiltre et quand elle pénètre dans le sol, c'est pour profiter à la reprise de la végétation. Hier, la ministre de l'écologie avait jugé déjà préoccupante la situation de la ressource en eau en France, estimant surtout qu'il fallait conserver le plus longtemps possible notre capital eau en ce début d'été. D'où déjà des restrictions d'usage de l'eau dans presque la moitié des départements français. Dans le Nord, le Pas-de-Calais, notamment le Boulonnais, dans l'Est, le Doubs, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et dans le Sud-Est, les Bouches-du-Rhône. Il va falloir économiser l'eau cet été. Au 1er juillet, le BRGM a estimé que 39% des nappes phréatiques étaient moins remplies que la moyenne habituelle à cette saison.
Des préfets dotés de davantage de pouvoir, voilà ce qui sous-tend la réforme présentée aujourd'hui à Chartres par le Premier ministre. François Bayrou espère de cette manière simplifier la compréhension des politiques publiques et faire du même coup quelques substantielles économies. 26 propositions pour mieux contrôler la distribution d'un certain nombre d'aides publiques aux entreprises. Elles sont contenues dans un rapport décapant publié aujourd'hui par les sénateurs. La commission d'enquête du Palais du Luxembourg travaille sur cette question depuis le début de l'année. Le groupe communiste et écologiste est à l'initiative. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Olivier.
Les élus préconisent entre autres un remboursement des subsides quand les entreprises délocalisent. Ils réclament également davantage de transparence.
Oui, un choc de transparence démocratique, nous dit-on, pour ne pas que comme actuellement, ces centaines de milliards d'euros soient concédés la plupart du temps sans aucune condition aux entreprises et donc sans qu'on puisse juger de leurs résultats, de leur efficacité. Choc d'évaluation donc aussi, question quasiment inexistante actuellement. Le sénateur LR Olivier Rietmann a présidé la commission d'enquête.
C'est même plus que surprenant, c'est choquant de savoir qu'on met 210 milliards d'euros sur l'année 2023 sur la table et qu'on ne va pour ainsi dire pas aller vérifier l'efficacité de chaque euro alloué. C'est-à-dire qu'on se dit que demain, il y a une nouvelle difficulté pour les entreprises. On va remettre en marche un nouveau dispositif sans avoir évalué les précédents.
Et sur les 2250 dispositifs d'aide publique qu'ils ont recensés, les sénateurs appellent aussi à un choc de simplification pour diviser ce nombre au moins par 3. Choc de responsabilisation des entreprises, enfin, pour qu'elles doivent rendre des comptes et que celles qui ne respectent pas la loi ne puissent pas bénéficier de deniers publics. Fabien Gay, lui, est le sénateur communiste, initiateur et rapporteur de la commission.
Pardon, mais que l'ensemble des sénateurs et des sénatrices disent que l'argent public ne doit pas servir les actionnaires, personne n'aurait pris ce pari. Si on m'avait dit qu'on allait interdire les aides pour une entreprise condamnée définitivement pour fraude fiscale, travail illégal, discrimination ou atteinte à l'environnement, personne n'aurait parié. Le remboursement des aides en cas de délocalisation totale ou partielle, sur 2 ans, personne ne l'aurait dit. Donc, c'est un rapport qui fera date.
Les sénateurs espèrent à présent arriver à imposer certaines de leurs 26 recommandations sous forme de propositions de loi ou bien d'amendements dans les débats budgétaires sur le budget pour l'an prochain.
Merci Camille Magnard. Et pendant ce temps-là, en Argentine, Javier Milei continue, lui, de trancher sans état d'âme dans les dépenses publiques après avoir supprimé 50 000 emplois depuis son arrivée au pouvoir. C'était en décembre 2023. Le président d'extrême droite ordonne la fermeture définitive de toutes les agences chargées des routes et de la sécurité routière. À Buenos Aires, c'est une correspondance de Caroline Vic.
4 agences de contrôle et de sécurité routière sont les dernières victimes de la tronçonneuse libertarienne. Elles entretenaient jusqu'à présent 40 000 km de route sur tout le territoire argentin et s'occupaient de la sensibilisation et de la prévention. Avec la fermeture définitive de ces organismes, 3 000 personnes sur les 5 000 employés seront licenciées. La concession de plus de 9 000 km de route sera donnée au secteur privé et sera créée une nouvelle agence de contrôle des concessions qui dépendra dorénavant du ministère de l'économie. Quant au contrôle des routes et à la prévention, ce sera à la gendarmerie de s'en occuper. Cette restructuration permettra donc à Milei, obsédé par le déficit fiscal zéro, de faire une économie de 100 millions de dollars et d'en finir, selon son porte-parole, avec la corruption. Chez les syndicats, c'est l'indignation. Pour eux, ce décret ne sert qu'à faire du business, puisque les péages devraient se multiplier. Ils craignent aussi que cette mesure génère, je cite, « des routes nationales de la mort » dans un pays où l'insécurité routière est déjà la principale cause de mortalité. Cette mesure a été prise dans le cadre d'un décret donnant au président Milei pendant 1 an des facultés exceptionnelles. Ce soir, ce privilège prend justement fin. En 1 an, il aura éliminé ou modifié 101 organismes d'État.
Une visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni. Emmanuel Macron a droit à tous les honneurs de la couronne britannique. Le chef de l'État parle d'un moment important pour l'Europe. C'est en effet le tout premier déplacement d'un dirigeant de l'UE depuis le Brexit. Les défis auxquels sont confrontés nos deux pays n'ont pas de frontières, a prévu de lui répondre ce soir le roi Charles III. Un sommet bilatéral doit valider demain à Londres un renforcement de la coopération en matière de défense, mais aussi de lutte contre l'immigration illégale. Du mouvement à France Télévisions, la patronne du groupe audiovisuel public a présenté ce matin les grandes lignes de force pour la rentrée. Une nouvelle présentatrice, on le sait, présentatrice vedette pour le 20h de France 2 en la personne de Léa Salamé. Un rendez-vous quotidien citoyen des régions sur France 3 avec Flavie Flamand ou encore Michel Field pour une émission sans filtre. Une antenne libre et ouverte à tous en deuxième partie de soirée. Delphine Ernotte est également revenue sur le projet de holding qui ambitionne de fusionner France Télévisions, Radio France et l'INA. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Sans surprise, Delphine Ernotte confirme soutenir ce dossier sans pour autant approuver le mécano imaginé dans un rapport très controversé signé Laurence Bloch, l'ancienne directrice des antennes de Radio France.
Oui, parce que Delphine Ernotte croit en la possibilité d'une BBC à la française, loin d'un projet qui regrouperait des filiales comme l'évoque le rapport de Laurence Bloch, commandé par la ministre de la Culture.
Alors que moi je conçois la holding pour aller vers une BBC à la française, donc en réalité pour fusionner à terme. Pour moi, fabriquer des filiales, c'est presque pire que la situation dans laquelle on est. Parce que dès que vous avez une filiale, vous avez des murs autour, puis ça coûte cher. Et la deuxième chose, c'est le patron de l'info unique. J'aurais fait exactement l'inverse. J'aurais dit, on touche pas à France Inter, on touche pas à France Culture, on touche pas à la rédac de France TV, c'est pas le sujet.
En revanche, investir ensemble dans l'intelligence artificielle ou faire du numérique commun à France Télévisions et Radio France, cela fait partie de la vision de la présidente de France Télévisions. Une première étape va d'ailleurs être franchie avec le regroupement de tous les contenus des locales de Radio France et de France 3 sur la plateforme ICI.
On va avoir donc sur ce même sites-là, de la vidéo, de la radio et du texte qui viendra à la fois des équipes de Radio France et des équipes de France Télé. Ça, c'est un mouvement assez fort pour vraiment créer un média social local, en quelque sorte. C'est ça le premier sujet auquel on va s'attaquer, qui n'est pas un petit bouleversement.
Avant un potentiel regroupement des équipes de France 3 et des locales de Radio France, mais encore faut-il que le projet de holding soit approuvé.
Merci beaucoup Fiona Mogadam. Du soleil quasiment partout demain matin, le vent se calme sur le sud-est de la France. Les températures remontent, elles iront de 10 à 19 degrés au lever du jour. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 22 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal avec à la technique ce soir Élise Le.